Je me présente, moi c'est Cédric Wenou, et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Alors, pour ce temps de témoignage, j'avais prévu en fait de redire certaines choses, mais je pense qu'il faut faire bien les choses, et ce temps de témoignage, je l'ai sectionné en deux temps. Le premier temps, c'est ce que j'appellerais la main de Dieu. C'est-à-dire cette période de ma vie où j'ai constaté véritablement que Dieu avait véritablement une main agissante en fait dans ma vie. Alors, à l'origine, je suis issu d'une famille catholique et j'ai grandi dans la foi catholique. Mon père est catholique, croyant, pas très pratiquant. Ma mère, elle est catholique, croyante, très pratiquante. Et donc, du coup, tous les dimanches, il fallait aller à la messe. Et depuis tout petit, j'ai gardé cette habitude, en fait. Je savais que le dimanche, il fallait aller à un lieu de culte, il fallait prier, rendre grâce à Dieu. Mais je veux dire que ça ressemblait un peu à du suivisme. Et avec les enseignements à l'église, on me racontait les bienfaits de Dieu. Jésus, il avait fait ça. Si on me présentait un peu la parole de Dieu, et à un moment donné, je me questionnais en fait de savoir, mais les gens, ils disent tout ça, Jésus, il est bien, mais personnellement, je ne vois pas ce que Jésus fait pour moi. Donc, je ne comprends pas l'utilité en fait de me lever tous les dimanches, ou peut-être les samedis pour les réunions de jeunesse, ou les mercredis. Je ne comprenais pas l'utilité, parce que je voulais d'abord voir l'impact, enfin, la main de Dieu, Dieu agir dans ma vie, Jésus agir dans ma vie. Et là, on peut dire que j'étais un peu comme un Thomas qui voulait voir avant de croire. Mais en fait, le souci, c'est que Dieu, quand il agit, souvent, avec nos yeux de chair, on ne peut pas véritablement mesurer en fait l'impact de la puissance qu'il a. Et quand je m'en suis rendu compte, en fait, et c'est là que je dis vraiment que c'est la main de Dieu, c'est par l'intermédiaire de mon père. Mais comme je le disais tout à l'heure, mon père, il est catholique, mais il croit en Dieu. Il sait qu'il y a un Dieu qui existe, mais il n'était pas très 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 pratiquant, et je veux dire, c'est véritablement un découragement de son côté. Bon, pas un découragement, mais en fait, lui et la foi, c'est un peu compliqué. Mais où je vois la main de Dieu, c'est que toujours dans ces interrogations, je me demandais, mais qu'est-ce que Dieu, en fait, il avait fait pour moi, qu'est-ce que Jésus avait fait pour moi, et qui m'obligeait à le rendre grâce, à le louer tous les jours. Et là, j'ai eu cette pensée-là, qui, un jour, j'étais comme ça, en train de réfléchir à tout ça, à penser, à remettre en question, en fait, ma foi en l'Église. Et si vous voulez, c'est comme si, à un moment donné, je sentis un détachement de mon corps, en fait, comme si j'avais pris une certaine hauteur et que j'avais une vue, en fait, d'ensemble sur ma vie. Et je me rendais compte que, en fait, il y avait quelqu'un qui s'appelait mon père, qui était véritablement le centre de notre famille. Et si vous voulez, chez nous, en fait, la figure paternelle est très importante, parce que le père, c'est celui qui travaille, c'est celui qui rapporte le pain à la maison, c'est celui qui s'occupe de tout. Généralement, la maman, elle s'occupe de l'éducation des enfants. Bon, ma mère, elle travaillait, mais pas véritablement à plein temps, je dirais. Mais en fait, donc, c'était mon père, en fait, qui s'occupait de tout. Et j'avoue qu'à un moment donné, j'en ai un peu voulu à mon père, parce que je trouvais qu'il était absent. Je ne le voyais pas tout le temps, il était tout le temps parti. Seul moyen de le voir, c'est entre 6h et 23h, c'était complètement impossible. Et franchement, j'avoue que je lui en voulais un peu parce que je trouvais qu'il était absent. Et en fait, dans ce moment où je prenais de la hauteur, je me rendais compte qu'en fait, mon père, il était un peu comme le centre de la famille. C'était le pilier de la famille, en fait. Et que si cet homme-là, il lui arrivait quelque chose, ben, pour nous, c'était foutu, quoi. À noter que je suis le cinquième enfant de mes parents et on est sept en tout. Donc j'ai encore un petit frère, une petite soeur derrière. Et vous imaginez en fait la vie de sept personnes qui ne dépendent que d'un seul individu. Donc si mon père n'est plus là, en fait ça allait être vraiment compliqué de continuer à vivre. Et où je vois la main de Dieu. Et là, en fait, c'est à ce moment que je me rends compte qu'en fait, je ne dois rien. Oh, Dieu ne me doit rien, mais en fait, c'est moi qui lui dois tout. En 2005, mon père se fait diagnostiquer une insuffisance rénale. Donc, je vous fais pas tout un tas. C'est la dialyse 3 fois par semaine. Donc là, déjà que c'était impossible de le voir avant, là, c'est. Et en plus, sa maladie qui vraiment le qui l'amoche. En 2009, j'ai mon bac et j'annonce à mon père que voilà, parce que pour son problème d'insuffisance rénale, il venait se faire régulièrement en France pour faire des examens pour voilà, avoir réussi à se faire greffer un rein. Et donc, il faisait souvent la navette. Et quand j'ai eu mon bac en 2009, je l'ai appelé. Il était en France. Je lui ai dit, papa, j'ai eu mon bac. Et je m'attendais à ce qu'il soit vraiment fier, mais il était fier, il était content, mais il était triste à la fois. Mais je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? Il m'a dit, ben, on vient de me diagnostiquer encore une hépatite C. D'accord. Et je lui dis, est-ce que tu en as parlé à maman et tout? Non. Parce que déjà, pour lui, c'était assez difficile avec la maladie qui trimballait. Et avec cette hépatite qui s'ajoutait là-dessus, pour lui, c'était out. Plus tard encore, à tout ça vient s'ajouter une sorte de. Comment dire ça? Si vous voulez, ses médecins après lui disent en fait qu'en fait à cause de son problème de rein, ben il y a l'hypertension à côté et en fait ça a également un impact sur son cœur. Et du coup, puisque mon père en fait médicalement il a des soucis en fait il a de petites veines et donc on a dû lui faire encore des opérations parce qu'il n'arrivait plus à dialyser du coup et donc on lui fait des opérations, on lui place des stents, si vous voulez c'est de petites pinces qu'on utilise pour écarter les veines et voilà. Et je veux dire que regarde tout ça, mon père il a subi tout ça mais il a toujours gardé, il n'est pas pratiquant, mais il a toujours gardé cette foi en Dieu et en lui-même, il priait tout le temps. Et quand je regarde, mais derrière tous ses frères, il y a tout le monde en fait qui pensait que lui, il allait y passer, quoi. Mais j'ai la joie de vous dire aujourd'hui que mon père, il se porte très bien. Il a été greffé, il a eu sa greffe de rein il y a 3 ans de cela. Mais il vient régulièrement en France pour ses contrôles à Toulouse. Et là, je vous dis que vous le croiserez dans la rue, ben, il ne ressemblerait pas à quelqu'un qui aurait passé toutes ces épreuves-là. Et aujourd'hui, quand je regarde, je me dis que véritablement, ce monsieur qui était quasiment, qu'on prenait pour mort là, qui était véritablement le pilier de notre famille, Dieu l'a maintenu parce que derrière, ce n'est pas forcément peut-être pour lui-même qui l'a maintenu, mais parce que Dieu savait que derrière, il y avait 7 enfants qui comptaient sur cet homme-là. Et Dieu l'a maintenu, en fait, pour nous. Et c'est en cela que je dis que la main de Dieu, peut-être que je me serais attendu à gagner, je ne sais pas, à gagner au loto, je ne sais pas, avoir une voiture pour mon bac, je ne sais pas. Mais j'ai demandé à Dieu, en fait, j'ai vraiment pris ce temps pour demander pardon à Dieu pour toutes ces accusations, ces moments de doute. Et je me suis rendu compte que c'est moi qui lui devais tout, en fait. Que je lui devais tout, toute ma vie. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, j'ai pris de l'âge, je vis seul, je me débrouille, je suis assez indépendant, même si les parents m'aident un peu. Mais je me rends compte ce que c'est que la vie d'un homme. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi papa n'était pas là. Parce que s'il avait passé son temps à se vautrer dans le fauteuil à la maison, ben, on n'aurait peut-être pas fait des cours. On n'aurait pas eu du pain à manger. Et en grandissant, on se rend compte c'est quoi la vie d'un homme. Tout le travail qu'il y a derrière. Et j'ai appris à respecter ça. Et depuis ce temps, j'ai fait une sorte de réconciliation avec mon père. Et je veux dire que je ne peux pas faire 3 jours aujourd'hui sans pouvoir lui parler. C'est pas possible. Et c'est en cela que je dis la main de Dieu, parce que je m'attendais à ce que Dieu fasse quelque chose, en fait, de grandiose, de miraculeux. Mais en fait, il y avait déjà un miracle là sous mes yeux et je ne remarquais pas. Souvent, on a tendance à attendre certaines choses de Dieu, mais moi, je pense qu'il a déjà tout fait avec le sacrifice de Jésus sur la croix. Les cieux se sont ouverts. Donc ça, c'est le premier temps de mon témoignage, la main de Dieu véritablement. Et dans un second temps, en fait, je veux parler en fait de ma véritable rencontre avec Dieu. Bon, je dirais pas rencontre, mais engagement plutôt. Parce que là, j'avais compris que Dieu avait véritablement agi dans ma vie et dans la vie de toute ma famille en maintenant vraiment notre Père en bonne santé. D'avoir maintenu en vie. Je lui rends grâce tous les jours pour ça. Et aussi, je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire moi, à mon niveau, parce que je me sentais redevable en fait envers Dieu. Je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire à mon niveau pour pouvoir lui rendre tout ce qu'il avait fait pour moi. Et je me suis dit, tiens, je vais m'engager dans le service à l'église. M'engager véritablement à d'abord à prendre, à avoir la connaissance de la parole de Dieu et ensuite m'engager dans le service à l'église. Mais, comme je vous le disais, ayant grandi en fait dans une église, dans la doctrine catholique, je veux dire que je me sentais un peu, si vous voulez, je me sentais un peu bloqué, un peu, je me sentais pas libre en fait de pouvoir exprimer en fait cet engagement que je voulais en fait exprimer pour Dieu. Et c'est, je cherchais en fait un endroit, une église où je pouvais véritablement m'exprimer. Et c'est là que j'ai découvert l'église évangélique, l'église de Pentecôte du coup. Et ça, c'était via des amis à moi, parce qu'on partageait certaines passions communes, notamment la musique, et en passant du temps avec eux, parce que eux, ils étaient en fait dans une église évangélique de Pentecôte. Et c'est en passant du temps avec eux que je me suis rapproché de l'église évangélique et que j'ai véritablement, je dirais, pris en quelque sorte ma place, compris en fait que je pouvais là, il était possible de s'exprimer, de vivre pleinement en fait cet engagement qu'on veut prendre avec Dieu. Ça a été un premier moment. Et malheureusement, après, je devais venir continuer mes études en France et j'ai été malheureusement séparé de toute cette ambiance dans laquelle je me trouvais, qui me permettait en fait. Et j'avoue qu'en arrivant en France, je me suis laissé un peu aller. J'avais véritablement perdu à un moment donné le chemin de l'Église, un moment de découragement. Mais j'avais toujours, je ressentais toujours cet appel en moi de m'engager en fait pour l'Église. Et je cherchais une église à Nantes où je me sentirais vraiment bien. Mais je ne vous dis pas le nombre d'églises que j'ai fait. Bon, je ne vous dirai pas. Mais l'église, ici, comment je l'ai découverte, mais c'est très drôle. En fait, j'ai une amie que sûrement vous connaissez très bien, Ketia Nyonkoro, qui était là avec nous pendant un moment pour son stage, et elle est retournée chez elle en Belgique. Mais en fait, j'étais également en stage, et elle m'avait appelé et m'a demandé si j'étais disponible en fait pour assister à un concert. Et c'était d'ailleurs le concert du groupe Héritage. Et en ce temps, j'étais en stage à Cholet, je me dis, le temps d'arriver et tout, je serais forcément en retard, je serais vraiment trop fatigué. Venir là, franchement, ça va être trop compliqué pour moi. Mais je sais pas, mais je peux. En moi, je ressentais toujours cet appel-là, ben écoute, c'est un concert, c'est toujours dans le cadre de l'œuvre de Dieu, et vas-y, quoi. C'est vrai, la fatigue et tout, mais écoute, de toute manière, tu seras déjà à Nantes, tu es fatigué, tu habites à côté, tu rentres, tu te couches, tu dors, voilà, tu peux le faire. Et donc, je fais le trajet, je rentre sur Nantes, et on vient assister au concert, et là, merveille. Il n'y a pas de mots suffisamment forts pour décrire le sentiment de bien-être que j'ai eu quand j'ai foulé le pied de cette église. Et je me souviens bien de ce que j'ai dit, Kétia, à ce moment. Je lui disais qu'en fait, ici, ça sent l'amour. Mais en fait, donc, on a été assisté au concert de l'étage, et là, je me suis senti vraiment emporté. Et j'ai dit, ben, je suis là, il y a des gens autour qui vraiment vivent véritablement cet amour, qui vivent vraiment en Jésus. C'est la bonne place, c'est la bonne place, c'est la bonne place. Tu n'as pas à aller ailleurs. Et en fait, et comme le malin, il aime nous tenter, de nature, je vais y aller, mais en fait, le malin, il essaie de nous tenter à tout moment, et après le concert, je me suis senti bien, je me suis dit, ben, la prochaine fois, je reviendrai, j'attends qu'il y ait encore un concert ou un autre truc, et après je viendrai. Mais je me suis dit, mais tu es déjà là, pourquoi ne pas, de nature je suis timide, mais il faut que déjà tu arrives à te dépasser, si tu veux faire cet engagement à la suite de Dieu, ben, il faut que tu fasses le premier pas, il faut que tu ailles vers les gens. Parce que tu as ressenti cette atmosphère de paix, de bonheur, d'amour, mais tu ne vas pas t'en aller comme ça. J'ai dit, écoute, ben, je ne pars pas aujourd'hui sans avoir parlé à quelqu'un. Et à la sortie, j'ai rencontré le frère Wilson. Et on a parlé ensemble et on a échangé. Et du coup, il m'a invité aux réunions de jeunesse et tout. Mais à force de me frotter à vous, j'ai vraiment ressenti votre amour. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que je suis à la bonne place et je me dis que c'est véritablement le moment pour moi de prendre cet engagement, de faire ce pas que j'attendais désespérément de faire pour Dieu, de m'engager sur son chemin, de le servir parce que je lui dois tout. C'est sur ces mots que je veux terminer mon témoignage. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni.
Amen. Je crois que la grâce, la paix, la bénédiction de Dieu est venue sur ta vie par le bon berger qui est la personne de Jésus-Christ et qu'il t'a ouvert le chemin, le bon chemin, et que tu as reçu la vie éternelle en confessant tes péchés, et que par le sang de Jésus, tu as reçu le pardon.
Oui, je le crois.
Tu crois que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'il est dans la gloire éternelle et que tu attends son glorieux retour.
Oui, je le crois.
Et dans cette attente du glorieux retour, tu t'engages à marcher avec lui, à le servir, à être témoin et à glorifier son nom dans les bons comme dans les mauvais jours.
Oui.
Sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu t'accompagne.
Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia.
Voilà notre frère.
Je vais décrire sur un papier. Merci.
Excusez-moi.
Mais vous n'avez pas à vous excuser.
D'habitude, c'est moi qui fais le contraire. Bonjour mes frères et sœurs. D'être présent à la cérémonie de mon baptême en ce dimanche 12 juillet 2016. Je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Esseline, j'habite à Nantes actuellement. Grâce à mon amie Madeleine qui est ici présente, qui est juste en face de moi, m'avait invité à venir à votre église il y a environ 4 ans, où j'ai pris goût à écouter la parole des pasteurs inspirée de la parole de Dieu, et ainsi pour différentes activités, parce qu'il n'y a pas que le culte, il y a par exemple pour les fêtes de Noël, tout ce qu'ils organisent pour les enfants, pour la fête des mères, pour Pâques, puis bien d'autres choses. Aussi les invitations qu'ils effectuent entre eux à d'autres églises à venir participer pour faire connaître aussi l'église de la Sainte Pentecôte. À l'époque, j'avais de gros problèmes personnels. Et depuis que je suis venu à notre église, mes frères, tous mes soucis ont disparu. Et c'est pour cette raison que je crois en Dieu maintenant, et j'ai compris à ce moment-là que Jésus est mort pour mes péchés et pour nous aussi. Sur la croix, et c'est pour lui, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je déclare le suivre tout au long de ma vie. C'est sûr que pour être baptisé par immersion, il faut prendre, ça demande une certaine réflexion en fait. Là maintenant, je me suis prêt à me faire baptiser par immersion. Excusez-moi si je bégaye un peu, je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Et c'est par ces motifs que j'ai décidé, en ce jour du 12 juin 2016, de me faire baptiser par immersion.
Gloire à Dieu.
Au plus haut des cieux. Je connais mes refrains. Et aussi, ce qu'il faut, c'est que vous continuiez à vous entretenir entre les trois églises, que vous soyez tous solidaires les uns et les autres. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez toujours consulter, aussi bien hommes ou femmes, les pasteurs qui vous encadrent. Ils sont là toujours jour et nuit à votre écoute. Et des fois, ça fait du bien aussi de discuter. Voilà.
Dieu soit béni.
Au nom du Père, du Fils.
Voilà. Pardon, excusez-moi. Oui.
Voilà, oui. Il faut vous dire que notre frère, quand il est venu pour la première fois, il était engagé dans sa religion profondément et mandaté pour certaines choses. Et il a été touché par la grâce de Dieu, et ce fut un long parcours spirituel, mais ce long parcours, il ne fait que commencer dans le chemin avec le Seigneur. Alors nous connaissons beaucoup et les moindres détails, mais c'est très, très profond et on vous souhaite la grâce du Seigneur.
Amen.
Amen. Voilà, on va passer. Jésus-Christ est le bon berger, qu'il est venu sur cette terre et que vous avez entendu la voix du bon berger et que ce bon berger vous a entouré, vous conduit, vous a conduit vers de verts pâturages et que vous avez reçu la paix, la grâce dans votre âme grâce à sa mort sur la croix et à sa résurrection d'entre les morts.
Oui, je le crois.
Vous croyez aussi que Jésus-Christ est dans la gloire et que de son ciel de gloire, il est celui qui vous dirige, qui vous bénit et qui vous fait grâce.
Oui, tout à fait.
Vous engagez à marcher avec le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours, en étant avec lui et lui avec vous et attendant son glorieux retour.
Oui.
Sur votre confession de foi, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu vous accompagne.
Quelle joie de marcher avec Jésus, quelle joie de marcher avec lui. Dans mon voyage ici-bas, il conduira tous mes pas. Quelle joie de marcher avec lui. Quelle joie de marcher avec Jésus, quelle joie de marcher avec lui. Dans mon voyage ici-bas, il conduira tous mes pas. Quelle joie de marcher avec lui. Quelle joie de marcher avec Jésus, quelle joie de marcher avec lui. Dans mon voyage ici-bas, il conduira tous mes pas. Quelle joie de marcher avec lui.
Chers amis, bonsoir. On dit bonsoir en Afrique après-midi, hein. Voilà. Et je suis heureux de passer ce moment avec vous, ce temps de joie, avec le baptême de ses amis, gloire à Dieu, pour leur engagement. C'est toujours un moment émouvant de s'engager avec le Seigneur. Alléluia. Quelle date, hein, que ce 12 juin 2016 pour ses amis. Est-ce que vous vous rappelez pour certains le jour de votre baptême? Oui, oui, Sylviane, si. Lisiane, tu te rappelles? J'ai baptisé ma sœur là, hein, au Niger, dans le fleuve Niger. Voilà, gloire à Dieu. Et certainement d'autres aussi, vous rappelez de ce jour béni. Amen. Voilà, un temps émouvant, un jour où là, n'est-ce pas, le genou tremblait, le cœur tremblait aussi. Mais quel jour de joie, n'est-ce pas, ce jour où on s'engage, où on prend la décision d'engager notre vie pour marcher avec le Seigneur. On va lire quelques versets de la parole de Dieu, qui reste toujours notre source d'inspiration, dans le livre des Actes au chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17 et au verset 24. Nous allons lire quelques versets d'une prédication. Comme ça, ça me permettra d'être plus court, puisque quelqu'un a prêché avant moi. Hein? Actes chapitre 17, verset 24. L'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse avant qu'il ne rencontre le Seigneur, et qui est devenu Paul, le petit, car c'est ainsi ce que veut dire son nom. Cet homme qui a rencontré le Seigneur véritablement et qui a été éclairé par le Saint-Esprit, se retrouve devant une bande de philosophes à Athènes, devant lesquels il va dire ces choses au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre. Rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays, il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de vos poètes l'ont déjà dit, oui, nous sommes ses enfants. Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu ne tient plus compte de ces temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à se repentir, à changer leur vie. En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela et il l'a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu'il avait choisi. Amen. Voilà une prédication un peu particulière devant ces hommes, ces femmes, ces philosophes à Athènes qui avaient besoin d'entendre qui était le vrai Dieu. Eux qui avaient toutes sortes de dieux, qui philosophaient, qui discutaient beaucoup sur la divinité. Voilà que Saul de Tarse, l'apôtre Paul, annonce par le Saint-Esprit, eh bien, que Dieu est esprit, qu'il n'habite pas ni dans des pierres, ni dans du bois, ni dans des temples, qu'il est l'esprit éternel, le créateur de toutes choses, qu'il est le Seigneur, qu'il n'est point servi par des mains humaines, qu'il n'a besoin de rien, il est l'éternel qui se suffit à lui-même. Il a aussi profité de cette occasion pour rappeler que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, c'était important de le dire aussi à l'époque, qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine, et surtout, et il le précisera dans cette prédication, que Dieu a déterminé la durée des temps. Et je voudrais, cet après-midi, que nous puissions nous arrêter sur cette expression, que Dieu est le maître du temps, et que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. C'est Dieu qui a déterminé la durée de notre temps, de notre vie humaine. Dieu le sait, et nous ne savons rien. La Bible nous dit, alors que les premiers êtres dépassaient largement, n'est-ce pas, les 800, 900 ans, eh bien, à cause du péché, les jours de l'homme seront au maximum de 120 ans. Si vous pensiez vivre plus, je vous annonce peut-être une mauvaise nouvelle cet après-midi. Mais ça suffira quand même, n'est-ce pas? 120 années. Un peu plus loin, Moïse dira dans son psaume, les jours de nos années sont de 70 ans et de 80 ans pour les plus robustes. Alors pour vous qui avez dépassé 80 ans, c'est que vous êtes extrêmement robustes et que vous vivez un bonus, n'est-ce pas? Vous avez dépassé la moyenne planétaire. Le temps passe. Le temps passe, les années passent. Que faire pour arrêter le temps? On peut rien faire pour arrêter le temps qui passe, n'est-ce pas? Toujours dans le psaume 90, Moïse dira, le temps passe vite et nous nous envolons. Oui, le temps passe vite. Je me rappelle aussi de l'année où je me suis fait baptiser. J'avais 17 ans. Ça me semble très loin maintenant. Et le jour où j'ai rencontré le Seigneur, à 14 ans, tout me semble si loin. Et en même temps, pendant toutes ces années, Eh bien, le Seigneur a été fidèle. Alléluia. Oui, le temps passe. Le temps passe. Et quand on est jeune, on a l'impression que l'éternité est devant nous. À 50 ans, on est déjà plus conscient du temps qui passe. À 60, 70, on se rend compte que les choses se précipitent. Et que, en effet, comme dit la parole de Dieu, nous allons bientôt nous envoler. Dans l'épître de Jacques, il est dit, qu'est-ce que votre vie ? Qu'est-ce que votre vie ? Qu'est-ce que notre vie ? Une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Qu'est-ce que la durée d'une vie humaine par rapport à l'éternité ? Oh, des fois, voyons dans le journal de braves personnes, n'est-ce pas, qui dépassent les 90 ans, 100 ans. Et si, eh bien, cette personne arrive jusqu'à 110 ans, on fait un beau pavé dans le journal, comme pour dire c'est merveilleux, elle est arrivée jusqu'à 110 ans, ou il est arrivé jusqu'à 110 ans. Mais qu'est-ce que cela par rapport à l'éternité ? Et Moïse, qui était bien conscient de tout cela, dira, enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. À bien compter nos jours. Le temps est là, il passe, et comme il est dit, n'est-ce pas, comme quelqu'un l'a dit, le temps est court, mais l'éternité est longue. Et il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Pour cela que, dans sa prédication, l'apôtre Paul dira que Dieu a fixé un temps, ou a voulu un temps, pour que les hommes, ou tout individu sur la terre, le cherchent, et prennent du temps pour chercher Dieu. Chers amis, cet après-midi, est-ce que vous avez pris le temps dans votre vie pour chercher le Seigneur ? C'est quelque chose de capital, car il semble que Dieu nous ait donné ce temps-là. Et qu'importe si c'est 70 ans, 90 ans ou 110 ans, qu'importe. L'important, c'est de le chercher et bien sûr de le trouver. Dieu a fixé un temps pour qu'il le cherche. Est-ce que vous le cherchez ? Est-ce que vous cherchez le Seigneur ? Certains diront, ah, il faut en parler, il faut parler de Dieu, il faut prendre le temps. Mais si on ne fait que parler de Dieu, c'est une perte de temps. Certains diront, peut-être je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de chercher Dieu. Je suis trop occupé. C'est pas le moment. Peut-être je m'occuperai de cela plus tard. Je me rappelle de cet homme qui, n'est-ce pas, avait une vie très active. Un homme d'affaires, un homme occupé. Et puis voici qu'un jour, la maladie l'a frappé. Il s'est retrouvé cloué sur un lit. Cloué sur un lit. Il pensait que chercher Dieu, tout ça, c'était inutile. C'était du temps perdu. Il y avait d'autres choses à faire sur la terre. Jusqu'à ce que la maladie l'arrête. Dieu, quelquefois, prévoit dans son temps ou dans son calendrier des temps d'arrêt pour nous. Il nous arrête afin que nous prenions le temps de le chercher. Et là, à l'hôpital, alors qu'il ne pouvait plus rien faire, il a passé son temps, il a pris le temps de chercher le Seigneur. Certains le diront, en fait, ce n'est pas le moment, je verrai plus tard, mettant devant eux là des excuses. En tout cas, le prophète Osée nous dit, il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne. Il est temps de chercher l'Éternel. Et dans les versets que nous avons lus ici, verset 27, il est dit, en réalité, Dieu veut qu'on le cherche, et il n'est pas loin de chacun de nous. Amen. Dieu n'est pas loin de toi cet après-midi, mon ami. Je ne sais pas si tu as pris du temps dans ta vie pour chercher le Seigneur. Peut-être es-tu venu cet après-midi invité pour cet événement particulier que sont ces baptêmes, et tu as pris le temps quand même de venir et de passer quelques minutes au milieu de nous. Que Dieu fasse que dans ce moment, eh bien, tu te réveilles et que tu prennes la décision enfin de chercher le Seigneur. Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu le cherches. Car lui-même te cherche. Et la Bible dit et confirme que Dieu n'est pas loin, il n'est pas loin de nous. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui cherche, il va trouver. Alléluia. Il va trouver. Il y a certainement ton calendrier que tu as fait pour cette année avec des événements importants. Tu as ton temps à toi, tu as tes événements à toi. Mais je voudrais aussi, cet après-midi, eh bien, te parler du calendrier de Dieu. Dieu a son propre calendrier aussi. Dans le temps éternel de Dieu, il y a des dates importantes pour le Seigneur. Il y a dans le calendrier de Dieu des dates précises. La première date, c'est la date et le jour où Dieu le Père a envoyé son Fils. C'est une date importante. Dans la Bible, il est dit, Christ, au temps marqué par Dieu, est mort pour des pécheurs. Voilà une date importante dans le calendrier de Dieu. Et si c'est important pour Dieu, il faut que ce soit important pour toi. Dieu, n'est-ce pas, au temps marqué, eh bien, envoyé Jésus, et le Christ est mort pour nous qui sommes des pécheurs. Dieu a voulu cela. Il nous a vus dans notre humanité, loin de lui. Il nous a vus pécheurs et perdus. Il nous a vus, n'est-ce pas, éloignés de sa personne, essayant de nous débattre dans le siècle présent, dans ce monde. Il nous a vus dans nos difficultés, dans nos interrogations, dans nos soucis, comme nous l'avons chanté, dans toutes sortes de problèmes. Il nous a vus perdus. Et c'est à cause de son amour qu'au temps marqué par Dieu, il a envoyé son Fils unique, Jésus. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, il y a eu un temps marqué. Il y a eu une date particulière, celle où Dieu a donné son Fils. C'était dans le calendrier de Dieu depuis toute éternité, et il fallait que ce jour s'accomplisse pour que tu aies une espérance pour ta vie. Pour que, en effet, celui que Dieu a envoyé, Jésus, puisse devenir ton sauveur, celui qui va te sortir de cette vie de misère et te donner la vie, la paix, la joie, le bonheur que Dieu veut donner depuis toute éternité à chaque individu. Alléluia. Mon ami, crois à cette date importante. Nous sommes en 2016, après la naissance de Jésus-Christ, à quelques années près. Mais souviens-toi de cette date importante. Dieu a marqué cette date d'une pierre particulière. Il a voulu, en effet, eh bien, que ce jour soit marqué dans l'humanité. Et aujourd'hui, il est important de se rappeler de cela. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs que nous sommes. Le pécheur que tu es, pécheresse que tu es, il est venu pour toi. Alléluia. Et tu as besoin, eh bien, de t'approcher de lui et de croire en cela. La deuxième date dans le calendrier de Dieu qui est importante, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, 12 juin 2016, c'est une date importante. Pas seulement pour ses amis, ses bien-aimés qui se sont engagés avec le Seigneur, mais c'est une date importante pour toi. Ça peut être aujourd'hui une date importante pour toi, car la Bible dit que Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous voulez croire, et si vous entendez bien cette parole de Dieu qui est pour vous, alors n'endurcissez pas votre cœur, croyez que le Seigneur vous appelle, croyez que c'est un jour aussi important pour vous, c'est le jour où vous pouvez rencontrer le Seigneur. Alléluia. C'est le jour où votre vie peut basculer. Non pas dans quelque chose de mauvais, loin de là. C'est au contraire le jour où tout peut commencer pour vous. Où une vie nouvelle peut commencer pour vous. Où ce peut être le point de départ d'une vie insoupçonnée pour vous aujourd'hui. Je me rappelle de ce jour, n'est-ce pas, où moi-même j'ai eu rendez-vous avec le Seigneur. C'était marqué quelque part dans le calendrier de Dieu. C'était pour moi aussi le jour où c'était aujourd'hui où j'avais rendez-vous avec le Seigneur. Où son esprit m'a convaincu de la véracité de la parole de Dieu. Qu'il fallait qu'en effet, je me donne à Dieu, je change de vie, je me repente de mes péchés et que je marche avec le Seigneur. Je me rappelle de ce jour béni. Alléluia. J'ai eu moi aussi mon aujourd'hui. Qu'il en soit pour toi aussi, aujourd'hui. Que ce jour soit pour toi le jour d'un nouveau départ. C'est possible. Le jour d'une nouvelle vie, c'est possible. Si tu entends la voix du Seigneur, ne rejette pas demain. Mais aujourd'hui, tu peux commencer quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu fixe de nouveau un jour. Et pourquoi pas ce jour? Pourquoi pas aujourd'hui? Et si tu entends sa voix, si tu sens que Dieu t'appelle, alors la Bible dit « N'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ton cœur, au contraire, dispose ton cœur devant le Seigneur, dis-lui « Seigneur, viens dans ma vie, viens changer mon existence, viens faire de moi une nouvelle créature, car celui qui met sa vie, qui met sa foi en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. » Alléluia. Et cela peut commencer aujourd'hui. Notre prière, c'est que pour vous aujourd'hui, ce soit le jour d'un nouveau départ, d'une vie nouvelle. Et cela est possible pour toi, mon ami. Peut-être que l'incrédulité a rempli ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Peut-être tu te dis, mais ce que ces amis ont vécu, c'est pas pour moi. Le diable met toutes sortes de pensées à notre esprit, voulant nous détourner de la vérité, voulant nous retenir en arrière. Mon ami, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et si tu sens dans ton cœur que la parole de Dieu a des accents de vérité, alors décide aujourd'hui de t'y intéresser, de prendre le temps, de chercher le Seigneur. Et tu trouveras le Seigneur. Alléluia. C'est la promesse que la parole de Dieu nous fait. Celui qui cherche le Seigneur va le trouver. Il y a une troisième date dans le calendrier du Seigneur. L'apôtre Paul en parle un peu de cette troisième grande date. Elle est pour bientôt. Elle est pour bientôt. L'apôtre Paul dira, en effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. C'est un jour à venir. C'est un jour dans le futur. C'est un jour où, en effet, chacun rendra des comptes à Dieu. Chacun se retrouvera devant son Créateur. Et chacun devra rendre des comptes sur ce qu'il aura fait de son temps. De son temps, de sa vie que Dieu lui a donnée. C'est une date importante, bien sûr. Nous avons un jour de naissance, nous avons un jour de deuxième naissance, de nouvelle naissance, c'est le jour où nous décidons de marcher avec le Seigneur. Et puis il y a ce jour où, en effet, il faut quitter cette terre, entrer dans l'éternité et nous retrouver devant le Créateur. Il nous dira, qu'auras-tu fait? Qu'as-tu fait de ta vie? Et pour celui qui ne se sera pas soucié du Seigneur, qui ne se sera pas soucié de son salut ni de son éternité, alors il y aura pour lui de la confusion. Mais pour celui ou pour celle, eh bien, qui aura donné sa vie au Seigneur, ce sera un temps de joie complète et profonde, où le Seigneur dira, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Chers amis, la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Pour ses amis, cet après-midi, c'était le temps du baptême. Amen. C'était un beau jour pour vous. C'était un jour heureux aussi dans le ciel. Gloire à Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'arrêter et pour chercher le Seigneur, pour chercher sa volonté. Le plus tôt et le mieux. Ne dites pas, je verrai ça quand je serai vieux, quand je serai à la porte de l'éternité. Là, peut-être, je penserai au Seigneur. C'est quand la porte de l'éternité? On n'en sait rien. Ce matin encore, eh bien, nous avons entendu que ça peut être très tôt dans la vie. Ça peut être très tôt. Nul ne connaît, n'est-ce pas, son avenir, son lendemain. Ça peut être n'importe quand. Alors c'est le temps aujourd'hui de s'arrêter et de chercher le Seigneur, parce que l'avenir ne nous appartient pas. Il y a un temps aussi pour recevoir le pardon des péchés. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. En reconnaissant que Dieu nous a envoyé un puissant sauveur, Jésus, qui a le pouvoir, qui a reçu tout pouvoir, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, dans le ciel et sur la terre. Il a le pouvoir sur la terre de nous pardonner, d'effacer nos fautes. Il est mort sur la croix du calvaire pour cela. Alléluia. Il a donné sa vie librement pour que nous soyons pardonnés, réconciliés avec le Créateur. Tu peux aujourd'hui l'accepter comme sauveur de ta vie. Pour que ce jour devienne un jour béni, un jour marqué. Et puis, il te restera, si Dieu le veut, bien tout le reste de ta vie, que Dieu te donnera en effet, pour vivre comme Dieu le demande, pour le servir, pour mettre à profit, eh bien, cette nouvelle vie avec le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la vie avec le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa présence tous les jours de ma vie. Je l'ai vu tellement de fois dans mon existence, m'encourager, me consoler, intervenir. Je rends grâce à Dieu pour la présence de Jésus dans mon existence. Et je ne regrette pas un jour de lui avoir donné ma vie. Il est temps aujourd'hui de chercher le Seigneur. Et qu'aujourd'hui, 12 juin 2016, ça soit une décision dans votre cœur, dans ton cœur, mon ami. Si tu n'as pas pris cette décision, alors arrête-toi. Avant que les choses de ce monde ne t'arrêtent, avant peut-être que la mort ne t'arrête, décide toi-même de t'arrêter et de chercher sérieusement la face de ton Créateur, de ton Dieu. Tu es un Dieu aimant, un Dieu plein d'amour. L'apôtre Jean écrit « Dieu est amour ». Il nous veut du bien. Alléluia. Le Dieu qui nous a créés nous veut du bien. Et nous qui marchons avec lui depuis tant d'années, nous avons vu sa bonté et sa fidélité tous les jours de notre vie. Croyez-le, chers amis. Et décidez à votre tour de vous arrêter cet après-midi. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques instants, s'il vous plaît, et que, eh bien, au travers de ces quelques paroles, le Saint-Esprit encourage quelqu'un véritablement à prendre le temps. Ne ressors pas de ce lieu comme si tu n'avais rien entendu, mais prends le temps de chercher le Seigneur. Arrête-toi ce soir. C'est aujourd'hui que Dieu t'appelle. Il t'appelle de tout son cœur, voulant te rencontrer, voulant en effet faire alliance avec toi par Jésus-Christ. Alors, que ce soit le jour capital, le jour important. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes. C'est un temps béni, alléluia, parce que tu nous donnes rendez-vous ici dans ce lieu, devant ta face, dans la présence de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, que pour plusieurs cet après-midi, ça soit un temps particulier où nos amis vont en effet prendre le temps de te chercher, de chercher sincèrement et sérieusement ta personne, ton salut en Jésus-Christ. Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, dans ces moments, confirme ta parole, que ton Saint-Esprit travaille les cœurs, et que pour beaucoup au milieu de nous, ce soit aujourd'hui le jour du salut, qu'il commence une vie nouvelle à partir d'aujourd'hui, une vie où chacun prendra du temps avec toi, cherchera ta face, et te rencontrera. Merci Seigneur. Bénis ces moments. Bénis particulièrement ceux qui seraient en recherche, ceux qui peut-être n'ont pas pensé à ces choses, que ce soit le temps aujourd'hui. Merci Seigneur, tu nous donnes cette grâce, tu nous donnes ce jour, et nous voulons Seigneur te bénir pour cela, que ce soit un temps de bénédiction pour tous ces amis. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.